Chapitre 7. Exprimer. Montrer son travail. Verum ipsum factum. Le vrai est le faire même. Giambattista Vico, philosophe italien. En juin 1947, une petite fille dénommée Octavia Estelle Butler naquit à Pasadena, en Californie. Appelée Estelle durant son enfance, elle fut élevée par une mère célibataire et veuve qui travaillait comme domestique pour joindre les deux bouts. Extrêmement timide et introvertie, et de plus légèrement dyslexique, Estelle fut non seulement en butte à des difficultés scolaires, mais aussi à l'école la cible de choix de harceleurs qui la persuadèrent qu'elle était moche et stupide, maladroite et inapte à toute interaction sociale. Comme elle le raconte dans son livre « Bloodchild and Other Stories, Positive Obsession ». Face à cette situation, la fillette se renferma sur elle-même en puisant dans son imagination. Elle passa ainsi des heures à la bibliothèque centrale de Pasadena à lire des contes de fées et des histoires de chevaux, et plus tard, des romans de fantaisie et de science-fiction. En dépit de tous ces obstacles, elle finit par devenir l'une des plus brillantes et influentes autrices de science-fiction de sa génération, et la récipiendaire de plusieurs Hugo et Nebula Awards, les prix les plus honorifiques dans ces genres littéraires, ainsi que la première autrice de science-fiction à se voir décerner un MacArthur Genius Fellowship. Pourtant, ses professeurs de l'école élémentaire de Garfield avaient sévèrement jugé ses premiers écrits, les qualifiant d'hyperboliques ou estimant qu'elle ne faisait aucun effort. L'un d'entre eux avait même inscrit le commentaire suivant en marge d'une de ses copies. « Pourquoi introduire une touche de science-fiction ? Je pense que l'histoire serait plus universelle si elle restait ancrée dans le monde terrestre et humain. » Ce même enseignant avait signalé à sa mère « Elle comprend, mais elle n'applique pas ce qu'elle sait. Elle doit apprendre l'autodiscipline. » Quand, en 1954, à 12 ans, Estelle regarda « La Martienne diabolique », un exécrable film de série B, elle fut convaincue qu'elle était capable de mieux faire. « Jusqu'à ce que je me mette à écrire mes propres histoires, je n'en ai jamais trouvé qui soit vraiment à mon goût. En désespoir de cause, j'ai fini par inventer les miennes », a-t-elle ainsi expliqué. L'idée qu'elle pourrait un jour vivre de sa plume faisant peu à peu son chemin, elle commença sa transformation en Octavia qu'elle décrivait comme son alter ego puissant et affirmé. L'équivalent du baccalauréat en poche, Octavia occupa une série d'emplois temporaires ou à temps partiel mentalement peu éprouvants, employée de bureau, ouvrière manutentionnaire, employée d'une blanchisserie, puis préparatrice de repas, ce qui lui permit de continuer à se lever avant l'aube chaque matin pour écrire. La nouvelle Octavia se donna trois règles à suivre. 1. Ne sors jamais de chez toi sans avoir de quoi prendre des notes. 2. Garde toujours les oreilles tendues et les yeux grands ouverts quand tu circules dans le monde. 3. Ne prends pas prétexte de ce que tu n'as pas ou ne prétends pas que tu ferais ceci si tu avais cela. Sers-toi de cette énergie pour trouver ou créer une solution. Ainsi débuta la relation à vie qu'Octavia entretint avec ses mementos. Des carnets à spirale, made à 25 cents, où elle mettait tout, aussi bien ses listes de courses ou de tâches à accomplir, que ses souhaits, ses intentions et ses rêves pour le futur, ou encore des calculs relatifs à son budget pour se loger, s'éclairer, se chauffer et se nourrir. Elle y consignait également précisément ses objectifs d'écriture quotidien et le nombre de pages noircies, des listes de ses échecs et des qualités humaines qu'elle avait à cœur de développer. Bien entendu, Octavia Butler y compilait aussi du matériau pour ses merveilleuses histoires. Des paroles de chansons entendues à la radio, une idée de nom ou une motivation pour l'un de ses personnages. Un nouveau sujet d'étude, les détails d'une information journalistique, tout ce dont elle avait besoin pour bâtir les mondes constituant le cadre de ses récits. En plus d'étudier des dizaines de sujets comme l'anthropologie, l'anglais, le journalisme ou encore l'art oratoire pour étoffer son imaginaire, elle visita l'Amazonie et des ruines incas au Pérou, pour éprouver elle-même le foisonnement de vie qu'offre une forêt primaire, et voir de ses yeux ce qu'une civilisation disparue peut nous léguer. À l'instar d'une journaliste, elle voulait que ces histoires soient émaillées d'éléments factuels pour leur donner de l'authenticité et un aspect concret. Plus votre ignorance est grande, plus vos faits doivent être vérifiables, a-t-elle remarqué un jour. En 2020, pour la première fois, l'un de ses romans, La parabole du semeur, a fait partie de la liste des meilleures ventes du New York Times, lui permettant ainsi de réaliser l'un des objectifs de son existence 14 ans après sa mort. Le livre dépeint un monde post-apocalyptique, à la suite de catastrophes climatiques dans lesquelles de petites communautés doivent s'unir pour survivre. Ces prévisions étrangement prémonitoires ont trouvé un écho chez les lecteurs au moment de la pandémie de Covid-19, alors que notre monde commençait à sembler tout aussi sombre et incertain que celui imaginé par la romancière. Tout à coup, se figurer ce à quoi pourraient ressembler nos vies dans un contexte de crise radicale ne fut plus considéré comme une spéculation oiseuse, mais comme la légitime préoccupation de millions de gens sur la planète. D'aucuns ont érigé l'autrice au rang de prophétesse pour sa capacité à prédire l'avenir, même si elle a toujours dit que ses écrits n'étaient que le fruit de son imagination. J'extrapole à partir des derniers développements technologiques, des conditions sociales et environnementales actuelles et des pratiques de notre temps dans toutes sortes de domaines. Cela offre de bonnes possibilités ainsi que des avertissements. Cependant, Butler savait que la science-fiction n'était pas que du divertissement, mais qu'elle offrait aussi une vision capable de transformer le monde et son futur. Elle a été l'une des premières femmes noires reconnues dans le genre de la science-fiction, et elle a exploré des idées et des thèmes jusqu'alors ignorés, notamment les conséquences potentielles de l'effondrement environnemental dû au changement climatique, à la cupidité des entreprises et au fossé croissant entre les riches et les pauvres. La fluidité des genres et l'altérité des groupes marginalisés, ainsi que les effets délétères de la structure hiérarchique de la société. Elle a aussi été la pionnière de l'afrofuturisme, un genre littéraire qui met en scène des Afro-Américains qui adoptent des changements radicaux pour survivre, permettant ainsi à ses lecteurs de visualiser des futurs dont les héros sont des marginaux, des exclus ou des non-conformistes. Comment se fait-il que l'on en sache autant sur sa vie ? Parce qu'elle gardait tout. De ses journaux intimes, ses mémentos, ses discours, ses cartes de bibliothèque, ses brouillons d'essais et d'histoire, à ses notes de cours, ses agendas et ses calendriers, en passant par ses bulletins et ses trombinoscopes scolaires, ses cartes de bus et ses contrats. À sa mort, elle a ainsi fait don de 9062 éléments remplissant 386 cartons à la bibliothèque Huntington de San Marino, en Californie. Par ailleurs, comment une petite fille affreusement timide comme elle a-t-elle pu devenir une autrice mondialement connue et primée ? Comment une jeune femme sans le sou et harassée de travail a-t-elle pu accéder au rang de puissante prophétesse du futur ? Si l'on se réfère à ses propres dires, elle-même s'en est étonnée. Ma mère était domestique. Mon père, cireur de chaussures, et moi, je voulais écrire de la science-fiction. De qui me moquais-je ? Elle y est arrivée, en puisant dans ses expériences vécues. Ce qui est douloureux, effrayant ou déplaisant influe plus fortement sur mon travail que ce qui est positif. C'est aussi plus mémorable et cela m'inspire des histoires plus intéressantes. Elle s'est aussi servie de ses notes et de son écriture pour confronter ses démons. L'obstacle le plus important que j'ai eu à surmonter a été ma propre peur et le fait de douter de moi-même en me disant que mon travail n'était pas à la hauteur, que je n'étais pas suffisamment intelligente et que ceux qui me disaient que je n'y arriverais pas avaient raison. Elle s'est appuyée sur tout ce que sa vie et les livres qu'elle avait lus lui avaient appris. Servez-vous de ce que vous avez. Même si cela semble peu entre vos mains, cela peut devenir de l'or. En dépit de tous les obstacles placés en travers de son chemin, cela lui a permis d'exprimer ses idées avec sa propre voix. le mythe de l'écrivain assis devant sa feuille blanche ou du peintre face à une toile vierge n'est que ça, un mythe. Les créateurs professionnels s'inspirent constamment de ce que leurs expériences et leurs observations personnelles leur offrent, des idées des autres et des leçons glanées aussi bien des succès que des échecs. S'il y a un secret à la créativité, c'est qu'elle se nourrit de nos efforts quotidiens pour rassembler et organiser ce qui nous influence. Comment protéger vos ressources les plus précieuses ? L'attention d'un travailleur du savoir est sa plus rare et précieuse ressource. À chaque étape, le processus créatif se nourrit de notre attention. C'est comme un prisme qui nous permet de donner un sens à ce qui nous arrive, de prendre note des ressources dont nous disposons et de comprendre quelle peut être notre contribution personnelle. La capacité à concentrer notre attention intentionnellement et de façon stratégique est un avantage compétitif dans un monde saturé de distractions. Il nous faut donc la protéger tel un trésor. Sur les 24 heures quotidiennes dont vous disposez, combien bénéficient de votre attention pleine et entière ? Certaines journées sont si frénétiques et fragmentées qu'elles en sont totalement privées. L'attention peut se cultiver, mais elle peut aussi être détruite, que ce soit par des distractions, des interruptions ou un environnement peu propice à la concentration. Le défi à relever quand nous nous construisons un second cerveau est d'établir un système pour nos connaissances personnelles qui libère l'attention au lieu de l'accaparer. On nous a appris qu'il est important de travailler en gardant la faim à l'esprit. On nous a dit qu'il en va de notre responsabilité de fournir des livrables, qu'il s'agisse d'un produit fini que l'on trouvera en magasin, d'un discours à donner à l'occasion d'un événement ou d'un document technique. De manière générale, ces conseils sont avisés, sauf que l'on a tort de ne se concentrer que sur le résultat final. Tout le travail intermédiaire, nos notes, nos brouillons, nos ébauches, les commentaires reçus a tendance à être sous-estimés, dévalorisés et jamais plus utilisés. Étant donné que nous gérons la plupart de nos projets en cours dans notre tête, dès qu'ils sont finis et que nous nous éloignons de notre bureau, tout ce précieux savoir que nous avons eu tant de mal à accumuler s'efface de notre mémoire tel un château de sable balayé par la marée montante. Si l'on considère que la capacité à soutenir son attention est la compétence la plus précieuse du travailleur du savoir, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser tout ce travail intermédiaire disparaître. Si l'on considère aussi le peu de temps dont nous disposons pour produire quelque chose de remarquable au cours de nos carrières, arriver à recycler ces connaissances devient impératif. De tous les savoirs que vous créez aujourd'hui, lesquels sont les plus susceptibles d'être réutilisés à l'avenir ? Quels éléments vous permettront de mieux faire avancer vos projets ? Comment packager vos connaissances sous une forme qui vous permettra de vous y référer autant de fois que nécessaire à l'avenir, quel que soit votre projet ? Dans la dernière étape du processus créatif exprimé, je vais vous montrer qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfaitement prêt pour partager votre savoir. La clé est de vous exprimer plus tôt, plus fréquemment et par menues portions pour déterminer ce qui fonctionne et obtenir du feedback d'autrui. À son tour, ce feedback sera assimilé par votre second cerveau où il deviendra le point de départ de la prochaine itération de votre travail. Les briques intermédiaires. Pour être puissant, pensez petit. L'idée de diviser notre travail en petites unités n'est pas nouvelle. Sans doute avez-vous déjà entendu 100 fois le conseil suivant. Si vous êtes bloqué sur une tâche, détaillez-la. Chaque profession et médium créatif a sa propre version de ce que sont les étapes intermédiaires préliminaires au rendu final. Par exemple, on parle de modules dans le domaine de la programmation de logiciels, version bêta pour les startups, croquis en architecture, pilote pour les séries télévisées, prototype chez les ingénieurs, voiture expérimentale dans le secteur automobile, maquette dans le monde de la musique. Chacun de ces termes est l'équivalent d'un premier jet. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que morceler une tâche ne suffit pas. Il faut aussi un système pour gérer ces fractions, ces briques, au risque de se retrouver vite submergé à essayer de savoir où l'on en est. Ce système, c'est votre second cerveau et les petites portions de travail en cours qu'il contient sont ce que j'appelle des briques intermédiaires. Ces dernières sont les briques constitutives de votre travail. Ce sont, par exemple, des notes prises en réunion, des résultats d'études, une séance de brainstorming avec des collaborateurs, une analyse du marché sous forme de présentation ou encore une liste d'actions à mener suite à une conférence téléphonique. N'importe quelle note peut constituer une brique intermédiaire d'un projet ou d'un objectif plus large. Prenez par exemple un responsable commercial qui prévoit de monter une campagne pour pousser les ventes d'une boisson énergisante bénéfique pour la santé. Au premier abord, on pourrait se dire que ce genre de travail a peu à voir avec la gestion des connaissances. Ne consiste-t-il pas en effet avant tout à passer des appels téléphoniques, à aller à des rendez-vous, à envoyer des argumentaires de vente et à signer des contrats ? Si l'on y regarde de plus près, cependant, on constate que la vente s'appuie sur de nombreuses briques différentes. La brochure de l'entreprise, le prospectus de vente, le script pour le démarchage téléphonique, la liste des prospects intéressés ou encore les notes prises lors d'une conversation téléphonique avec un important distributeur. Pour être performant, un commercial dépend de toutes ces composantes. Comme avec les Lego, plus vous aurez de briques, plus ce sera facile de construire quelque chose d'intéressant. Imaginez ainsi qu'au lieu de partir de zéro au lancement d'un nouveau projet, vous ayez déjà plusieurs briques, des résultats d'études, des extraits d'articles publiés sur le web, des morceaux choisis de PDF, des notes de lecture, des croquis faits sur le coin d'une table, qui sont la somme de vos efforts continus pour mieux comprendre votre domaine d'expertise, votre industrie ou le monde en général. Notre temps et notre attention sont comptés, et il convient de considérer tout ce dans quoi nous investissons ces ressources rares, les rapports livrables, plans, écrits divers, graphiques et diapos, pour ce qu'ils sont, des actifs informationnels réutilisable. Recycler des briques intermédiaires de travail libère notre attention et lui permet de se consacrer à des réflexions plus poussées et plus créatives. Penser petit est le meilleur moyen d'élever notre horizon et d'accroître nos ambitions. Il y a 5 types de briques intermédiaires réutilisables que vous pouvez créer. Des notes distillées. Elles sont le fruit des livres ou des articles que vous avez lus et distillés de manière à pouvoir en saisir l'essentiel, en utilisant la technique du résumé progressif apprise dans le chapitre précédent, par exemple. Des rebuts, du matériau ou des idées qui n'ont pas été retenues pour un projet passé, mais qui peuvent servir ultérieurement. Du travail en cours, des documents, des graphiques, des programmes ou des plans que vous avez produits pour des projets passés. Des livrables finalisés, des éléments concrets qui ont fait partie de projets passés et qui peuvent devenir un des composants de quelque chose de nouveau. Des documents créés par autrui, des actifs informationnels créés par des membres de votre équipe, des contractuels, des consultants ou même des clients et que vous pouvez intégrer à votre travail. Si vous lisez des articles pratiques durant votre temps libre, vous pouvez sauvegarder les meilleurs conseils dans vos notes que vous distillerez ensuite pour le moment où il sera temps de les mettre en œuvre. Si vous écrivez un essai et décidez de couper certains paragraphes, vous pouvez les sauvegarder au cas où vous rédigeriez une suite. Si vous travaillez au développement d'un produit et créez une liste détaillée d'éléments préalables, vous pouvez conserver ce travail et vous en servir comme modèle pour de futurs produits. Si vous êtes consultant en management, vous pouvez enregistrer les diapositives finalisées que vous avez présentées à une équipe de direction et les réutiliser pour des présentations similaires. Si vous êtes un scientifique de laboratoire et qu'un collègue conçoit le parfait protocole d'expérience, vous pouvez réutiliser et améliorer ce document pour votre propre usage, avec son autorisation, bien sûr. Bien entendu, citez toujours vos sources et créditez qui de droit. Un scientifique ne cache jamais ses sources. Au contraire, il y fait explicitement référence pour que d'autres puissent comprendre le chemin emprunté. Nous nous tenons tous sur les épaules de géants. Et il est bien plus malin de nous appuyer sur les réflexions qu'ils ont déjà menées plutôt que de nous efforcer de réinventer la roue. Considérer son travail comme une série de briques intermédiaires va générer plusieurs bénéfices puissants. Tout d'abord, vous deviendrez insensible aux interruptions parce que vous ne vous concentrerez que sur une portion à la fois au lieu d'essayer de tout charger d'un seul coup dans votre esprit. Deuxièmement, vous serez en mesure de progresser sur un projet dans n'importe quel intervalle de temps. Au lieu d'attendre d'avoir plusieurs heures d'affilée devant vous, ce qui, soyons réalistes, est de plus en plus rare, vous pourrez choisir de travailler sur telle ou telle brique intermédiaire d'un projet en fonction du laps de temps dont vous disposerez, aussi minime soit-il. Les projets et les objectifs ambitieux seront moins intimidants parce que vous pourrez les découper en autant de petites portions que nécessaire selon vos moments de disponibilité dans la journée. Troisièmement, morceler votre travail vous permettra de recueillir des commentaires plus souvent et donc d'améliorer sa qualité. Au lieu de travailler pendant des semaines seul dans votre coin pour ensuite présenter vos résultats à votre supérieur hiérarchique ou à votre client, et vous rendre compte que vous avez fait fausse route, vous ne créerez qu'une seule petite brique à la fois que vous soumettrez à la critique avant d'aller de l'avant. Vous constaterez aussi que les gens donnent de bien meilleurs commentaires s'ils sont impliqués dès le début et que le travail qui leur est présenté n'est pas finalisé. Quatrièmement, et c'est le meilleur, vous finirez par disposer de tellement de briques que vous pourrez réaliser des projets entiers rien qu'en assemblant une sélection d'éléments existants. C'est une expérience magique qui changera complètement votre façon de voir la productivité. Il ne vous viendra plus à l'idée de partir de zéro sur un projet, de ne pas puiser dans la richesse des actifs dans lesquels vous avez investi dans le passé vous semblera absurde. Vos relations de travail ne pourront que s'émerveiller de votre capacité à fournir de manière aussi constante des résultats d'un tel niveau. Elles se demanderont comment vous trouvez le temps de réfléchir aussi efficacement alors qu'en fait, vous ne travaillerez pas plus dur ou plus longtemps, vous ne ferez que puiser dans une bibliothèque de plus en plus étoffée de briques intermédiaires stockées dans votre second cerveau. Si ces actifs ont vraiment de la valeur, ils méritent également d'être gérés au même titre que ceux que vous possédez par ailleurs. En fractionnant votre travail, vous prendrez conscience des unités atomiques qui le constituent. Pensez petit vous permettra de vous concentrer sur la création d'une seule portion à la fois, sans vous soucier de savoir si elle est viable ou si elle sera utilisée exactement comme prévu. Cette approche redéfinit la créativité comme un cycle continu de production fractionnée de valeur, loin de l'idée d'un effort colossal qui pèserait sur vos épaules pendant des mois.